Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le deuxième volet de l'émission des Adorables consacrée à ce que pensent les professeurs lorsqu'ils font face à leurs élèves. Je suis Ava Jacob et je vous propose aujourd'hui d'écouter les témoignages de trois autres professeurs qui ont eu la gentillesse de répondre à mes questions. Je vous laisse écouter leurs réponses.
Bonjour, est-ce que vous pourriez vous présenter, notamment en donnant votre matière et le nombre d'années d'enseignement ?
J'enseigne depuis le début des années 90. J'ai toujours enseigné l'italien jusqu'il y a une dizaine d'années où je commençais aussi à enseigner le français.
J'enseigne l'éducation musicale et le chant choral depuis maintenant 4 ans. C'est ma cinquième année en réalité.
Je suis professeur en physique-chimie. Voilà, j'enseigne depuis l'an 2000, tout rond. Mais j'ai eu une expérience où pendant 9 ans, j'ai fait d'autres choses qu'être devant les élèves. Voilà, donc 25 moins 9, ça fait 16.
Justement, est-ce qu'enseigner est la seule profession que vous ayez exercée jusqu'ici et est-ce que vous envisageriez d'en changer ?
J'ai eu des super opportunités dans ma carrière. Donc j'étais médiateur scientifique à la Cité des Sciences, donc ça c'était un magnifique travail. Par contre, c'était une mission limitée dans le temps dès le départ. Et puis après, j'étais aussi formateur pour les professeurs à ce qui s'appelait l'IUFM, après SP, aujourd'hui ça s'appelle INSPE.
Ça fait 35 ans aussi que je me demande est-ce qu'il faudrait changer, et je suis toujours enseignante. J'ai travaillé dans l'édition, je me suis occupée de communication, mais mon fil conducteur, professionnellement parlant, a toujours été l'enseignement en effet.
J'envisagerais de rajouter d'autres professions, pas tout à fait d'en changer. Et ce n'est pas la seule activité, puisque avant d'être professeur, j'ai été musicien, concertiste, accompagnateur. Et il m'arrive de faire du conseil aussi pour des musiciens, pour d'autres artistes.
Est-ce que selon vous, il faut être dur pour exercer ce métier de professeur ?
Dur ? Dans quel sens ?
Alors moi, je crois que j'ai une réputation dure. C'est toujours un compromis difficile à trouver entre de la fermeté plus que de la dureté et de la bienveillance. Mais d'ailleurs, je pense que c'est bienveillant d'être ferme avec les élèves.
Il faut être un peu endurci, oui, mais il faut être aussi un peu dur envers soi parce que c'est important d'être exigeant et de vouloir toujours s'améliorer. Donc ça ne se fait pas toujours dans la douceur, mais non, je ne dirais pas qu'il faille particulièrement être dur.
Comment faites-vous pour donner l'impression que rien ne vous affecte pendant un cours, ni des virus, ni le manque de sommeil, ni même l'envie d'aller aux toilettes ?
Drôle de question. Je peux penser à beaucoup de qualités qu'il faut avoir lorsqu'on est devant une classe d'élèves, quel que soit leur âge, mais je n'aurais jamais pensé à cette question de cacher ce que l'on est, cacher ce dont on a besoin. Donc je suis plutôt interloquée par la question, je ne saurais pas y répondre.
Eh bien, je n'essaye pas de faire cette impression-là aux élèves. Je minimise évidemment l'impact que ça pourrait avoir dans des moments de drame, mais je me permets aussi d'être un peu humain, et les élèves en général, je crois, apprécient d'avoir un être humain en face qui puisse aussi occasionnellement exprimer des émotions dans la limite où celle-ci ne perturbe pas le cours et n'empêche surtout pas le professeur d'être à l'écoute des émotions des élèves. C'est ce qui est le plus important. Finalement, c'est ce qui me permet de contrôler mes émotions le plus possible, de savoir que mon rôle est d'être à l'écoute des émotions des élèves avant tout.
Je dirais le plus dur, c'est l'envie d'aller aux toilettes. Non. Je crois que c'est des questions qui perturbent plus en début de carrière. Et puis après, on se dit que de toute façon, c'est la vie. En fait, peut-être que effectivement, les élèves voient que parfois on est plus fatigué. Tant pis, et quand on est plus fatigué, parfois il me semble qu'ils sont aussi, à moins qu'ils soient vraiment malveillants, mais normalement ils sont quand même plus attentifs et ils le sentent, et bon, ça se passe quand même relativement bien.
Qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez vos élèves ?
Ce qui me touche particulièrement, je pense que c'est de ressentir avec eux la sensation de grandir. C'est assez particulier, mais c'est une sensation qui est toujours renouvelée pour un professeur, alors qu'elle est unique pour l'élève. Et ça la rend d'autant plus touchante qu'on sait qu'elle est unique pour l'élève. Quand on voit un élève ou une élève en train d'essayer de grandir et d'y arriver, c'est quelque chose d'assez indescriptible en réalité. On a l'impression d'assister à un moment de vie, beaucoup plus qu'un moment d'enseignement ou d'un moment professionnel. C'est un moment où finalement on accompagne un être humain en développement. Et voilà, ça fait partie des choses qui me touchent le plus dans ce métier.
Les élèves font vraiment un travail remarquable sur eux-mêmes et ils partagent, bien entendu, avec moi des choses qui sont très importantes pour eux. Ils me racontent des choses qui me donnent vraiment des clés pour mieux travailler tout au long de l'année. Et c'est quelque chose de vraiment précieux.
J'essaie peut-être de garder une petite distance pour pas être affecté par tous les tracas qui leur arrivent. Parfois, je les trouve un peu tristes, un peu trop stressés par Parcoursup, par tous ces enjeux, au détriment du plaisir d'apprendre. Et ça nous affecte aussi, nous, dans notre métier, parce que je préférais qu'on ait de la passion à apprendre et pas être dans l'évaluation, les problématiques stressantes.
Y a-t-il des choses dont vous êtes témoin en classe et que vous choisissez d'ignorer ?
C'est pas choisir d'ignorer, mais c'est, je pense que faut pas, on n'aide pas forcément les élèves en mettant trop le doigt là où ça fait mal, en fait, pour dire les choses comme ça. On sait parfois qu'il y a des élèves qui ont des situations familiales qui sont difficiles, et je pense pas que ça va les aider forcément de... Qu'on insiste, comment tu vas, et ça doit être très difficile pour toi en ce moment. Et je pense que peut-être en leur changeant un peu les idées, en étant dans parfois une froideur peut-être de l'enseignement, on les déconnecte aussi de leurs problématiques. Et voilà, je pense que c'est mieux pour eux.
Disons que quelquefois il faut marquer le coup quand on a repéré quelque chose qu'on ne laisse pas passer. Et quelquefois il faut évidemment arriver à atténuer certains éléments perturbateurs, parfois un bruit, parfois un bavardage, tout simplement parce que ce serait leur donner trop de place dans le cours. Mais s'il y a une chose qu'en général je ne laisse pas passer, ce sont les moqueries. Dans ma matière, c'est quelque chose d'un peu particulier parce qu'on s'expose, et lorsqu'on s'expose, c'est très important de sentir qu'autour de soi, on a un cadre bienveillant et que personne n'aura l'idée de se moquer. Donc là-dessus, par exemple, non, je ne ferai jamais semblant de ne pas avoir entendu un rire. Pour moi, c'est une idée un peu insupportable qu'un élève, une élève, se brime, s'auto-censure par peur d'être moqué. Donc il y a des choses, évidemment, qu'il faut laisser passer, et certaines avec lesquelles je pense qu'il faut être absolument intransigeant.
Est-ce que vous vous êtes rendu compte, au fil des années d'enseignement, que vous aviez des biais ou des stéréotypes vis-à-vis des élèves ?
Alors, je sais qu'on en a. J'essaye de faire attention. Mais par exemple, quand j'interroge les élèves, qui est autant de garçons que de filles, enfin, voilà, mais on ne peut pas échapper aux biais, en fait.
Ça m'est arrivé notamment d'avoir l'impression que des élèves cherchent à se faire remarquer d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'un élève est toujours en évolution, donc il faut aussi laisser la chance à des élèves qui ont été perturbateurs ou perturbatrices pendant un cours, au cours suivant, de montrer qu'en fait, ça peut être tout à fait différent, et on peut grandir en une seule semaine, à cet âge surtout.
Alors, on est victime, effectivement, de biais, de modèles culturels. Moi-même, je viens de l'école italienne des années 70, où les jeunes filles, bien entendu, les élèves filles, étaient sages, calmes, elles devaient tout faire et être surtout très serviables. Elles ramassaient les papiers jetés par terre, par exemple, alors que les garçons, bien entendu, partaient tout de suite en récréation. Et malheureusement, on reproduit un tout petit peu, bien malgré nous. Je me suis rendu compte il y a quelques années que quand il y avait une petite fille qui m'adressait la parole, je disais « Ben alors, ma belle, raconte-moi ». Et lorsqu'il y avait un garçon qui m'adressait la parole, je disais « Eh bien, mon grand ». Et le jour où je me suis rendu compte de cette aberration, dans les années 2000-2025 aujourd'hui, j'ai arrêté net. Et si j'avais pu me gifler, je l'aurais fait volontiers.
Selon vous, c'est quoi un bon élève ?
Un bon élève, alors déjà, c'est Il y a le bon élève dans la matière. Enfin, moi, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez frustrant, parce que quand on les voit dans notre matière, ouais, on les voit que sous un aspect. Mais alors, un bon élève, voilà, moi, ça reste un bon élève dans ma matière. Et donc, c'est souvent, voilà, ça se limite à des performances à l'écrit, essentiellement, des compétences expérimentales, et un peu de compétences orales, surtout en terminale où on les prépare au grand oral.
Pour nous, un bon élève, en général, est l'élève, effectivement, qui joue le jeu et qui va à la rencontre du professeur, qui s'ouvre aux apprentissages.
Un bon élève, en réalité, ça rejoint ce qui me touche le plus chez les élèves, c'est cette capacité à grandir. Et à mon sens, un bon élève, c'est un élève qui a envie de grandir. Et c'est quelque chose qui est assez flagrant. Il y a des élèves qui n'ont pas envie de changer, ou en tout cas pas dans le sens vers lequel on essaye de les amener. Donc si une telle chose existe, un bon élève, oui, pour moi, c'est un élève qui cherche à grandir.
Qu'est-ce que vous ressentez quand personne ne participe dans votre classe ?
Oh, j'aime pas ça. J'aime pas du tout. Alors, ben, moi, j'ai tendance à les secouer. Voilà. Bon, ça arrive très rarement. C'est qu'il faut vraiment qu'ils soient très endormis, que ce soit juste sur l'heure de la digestion. Voilà.
Qu'est-ce que je ressens quand personne ne participe ? Je ressens la sensation de ne pas arriver à insuffler de l'énergie au groupe. Ça arrive, surtout à 8h du matin ou avant le déjeuner. Mais en général, je ressens cette injonction à l'intérieur qui est de dire « Bon, là, il va falloir peut-être un peu les bousculer, mais c'est de mon ressort. » Je pense que c'est aussi le rôle du professeur d'arriver à faire en sorte que les élèves aient envie de réagir, se sentent autorisés parfois à réagir sur des sujets difficiles ou sur lesquels les élèves se sentent parfois incompétents, incompétentes, ce qui est normal puisqu'ils sont là pour apprendre.
Heureusement, on ne vit pas très souvent cette situation.
Au contraire, qu'est-ce que vous ressentez quand tout le monde bavarde dans votre classe ?
C'est un autre type de cauchemar. Et je me mets à la place des élèves qui subissent effectivement une situation qui n'est pas facile, vivre du matin au soir dans un environnement qui peut être très bruyant, très fatigant. Ils sont obligés de rester assis. Et puis, je pense que le bavardage est naturel. Après, il faut effectivement attendre un tout petit peu pour que le calme nécessaire aux apprentissages se réinstalle.
Des bavardages, bon, ça peut arriver sur des temps où on change d'activité. Voilà, bon. Ce qui me gêne plus, c'est que, bon, quand ils mettent beaucoup de temps et à se reprendre, et puis que parfois on peut parler, certains élèves s'en fichent, parlent par-dessus. Enfin, ça, c'est un peu plus pénible.
Je mets un point d'honneur à interrompre les bavardages aussitôt qu'ils commencent, parce que sinon, c'est l'effet boule de neige qui se met en place. Donc, en réalité, je ne sais pas ce que je ressentirais à ce moment-là, parce que je n'ai pas voulu en faire l'expérience.
Est-ce que vous pensez que tout ce que vous dites en classe est intéressant ?
Je pense que tout ce que l'on dit n'est pas intéressant, forcément, à 100%, mais on dit beaucoup de choses, on radote, on reprend, avec toujours l'espoir, tout au moins en ce qui me concerne, que peut-être j'aurai passé une information, une notion d'une certaine manière qui conviendra à tel élève. Et quand je la reprends et quand je propose une approche un peu différente, peut-être je vais rencontrer un autre type d'élève. Chacun apprendra à sa manière, selon le moment, selon sa façon de faire. Mais d'une manière ou d'une autre, ces répétitions, ces façons différentes d'aborder, peut-être serviront à ce que toute la classe bénéficie d'une manière ou d'une autre du cours, de ce que l'on veut transmettre.
Non, ce n'est pas toujours intéressant. Je pense néanmoins qu'on peut trouver de l'intérêt à tout, y compris à quelque chose qui a l'air ennuyeux. Se demander notamment pourquoi on s'ennuie à tel ou tel moment, finalement, c'est une question assez intéressante. Et je sais que quand je leur propose certaines écoutes, il y en a qui sont réceptifs, d'autres non. Ce qui se passe quand ils ne sont pas réceptifs à une écoute, finalement, d'une certaine manière, ça les regarde et c'est peut-être un moment où leurs goûts vont s'affiner, où d'autres pensées vont surgir, et parfois des pensées très intéressantes. Donc c'est pas forcément quelque chose à fuir.
Quand on enseigne, il y a des parties de programme qui nous intéressent moins. On est obligé de faire tout le programme. C'est comme ça. Et j'essaye de faire en sorte que même les parties qui m'intéressent moins ne soient pas trop désagréables, déjà pour moi. Parce que si elles le sont pour moi, je pense que ça ne va pas passer auprès des élèves. Donc déjà, c'est la première étape. J'essaye de m'y intéresser le plus possible.
Qu'est-ce que vous aimez le moins dans ce métier ?
Les copies.
Oh, les corrections de copies. Ça, c'est pas compliqué.
Mettre des notes. C'est les seules notes qui m'intéressent véritablement sont les notes de musique et les notes éventuellement que prennent les élèves. Par contre, cette idée qu'il faille absolument évaluer chaque progrès avec l'idée en plus un peu sous-jacente que ces progrès devraient être linéaires puisque c'est ce à quoi on s'attend. Non, je crois que c'est la pire partie du métier pour moi. Mais on le sait bien, c'est aussi un outil qui permet aux élèves de se situer et de s'investir dans un cours.
Merci à vous trois pour la sincérité de vos réponses. J'espère que vos témoignages ainsi que ceux des trois professeurs précédents auront permis d'éclairer nos auditeurs sur l'humanité du corps enseignant qui n'a pas qu'un cerveau mais également un cœur. Nous vous retrouverons bientôt pour une nouvelle émission et attendons vos retours sur Instagram ou sur le site de l'école alsacienne. À bientôt.